Bon, ben, alors, on a appris que les adolescents de 12 à 17 ans vont recevoir une première dose de vaccin d'ici la fin de l'année scolaire en juin. Et là, ce matin, ben, si vous aviez encore des doutes à savoir où iraient vos jeunes cet été, sachez que on a donné le feu vert, là, pour la réouverture des camps d'été. Alors ça va peut-être être une bonne nouvelle pour vous, parents. Puis aussi, peut-être pour vos jeunes. Il y en a qui aiment beaucoup aller au camp d'été. Il y en a pour qui c'est une tradition. Alors, vous me direz en m'appelant si c'est une bonne nouvelle pour vous, 514-790-9850, 1-866-790-9850 pour me joindre un petit peu partout au Québec, gratuitement, sans frais, parce que évidemment, c'est un casse-tête souvent. Hein? Les parents sont au travail, ils sont occupés. Et là, ils se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire avec mes jeunes cet été? Évidemment, il y a des jeunes qui travaillent d'habitude, mais là, c'est pas simple. Beaucoup de jeunes travaillent dans le milieu de la restauration, sans parler en première heure. C'est pas évident non plus. Les restaurants savent même pas, eux, s'ils peuvent rouvrir ne serait-ce que leur terrasse. Donc, il y a pas de go pour le moment là-dessus. Souvent, les jeunes travaillent aussi dans l'industrie touristique. Là encore, c'est un peu mis sur la glace. En tout cas, c'est pas reparti avec la vitesse qu'on connaissait avant. Puis, il y a tous ceux qui sont à l'école primaire, secondaire, qui ont eu du rattrapage. Et là, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé qu'il y aurait des camps pédagogiques pour cet été avec du tutorat. Bref, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Est-ce qu'on leur dit, ben là, il va falloir que tu étudies cet été pour te rattraper, ou ça va être un été où ils vont pouvoir jouer, ou vous les encouragez à retourner un petit peu, peut-être se faire un petit peu d'argent de poche? On va en discuter tout de suite avec Léa Streliski, qui est humoriste et qui a 3 enfants. Bonjour Léa.
Bonjour.
Toi, évidemment, la question du travail, ça te préoccupe pas encore? Ils sont jeunes, ils ont 11, 9 et ça c'était 2 garçons. Tu as une fillette de 6 ans. C'est un casse-tête, hein, l'été quand même.
Ouais, c'est un casse-tête et je dirais que pour l'instant, on est vraiment au jour le jour. On les a inscrits à leur camp de jour habituel, notre camp de quartier, là, qui est vraiment un camp de la ville. Mm-hmm. Mais la dernière est sur une liste d'attente. Il y avait juste 100 places. Donc, les parents paniquent un peu parce qu'il n'y a pas assez de place pour tous les jeunes. Il faut que tu te trouves des projets. Et je sais pas vous, mais moi, je suis pas capable de voir l'été encore. Là, je suis consciente qu'on est au mois de mai, mais je suis encore un peu dans le déni. Vous me pognez un peu tôt là pour que je vous explique mes plans, parce que en gros, j'en ai pas.
Ah non, c'est vrai. Hein? Fait que donc, t'as 3 enfants, dont une, ta dernière, sur une liste d'attente. Donc, les deux vont aller dans un camp de jour de quartier. Est-ce que ils ont déjà essayé les camps de vacances, tes enfants?
Non, je sais pas s'ils sont trop jeunes, mais aussi il y a eu la pandémie l'année dernière où les camps étaient fermés, donc ça n'a juste pas à donner pour le moment. Mais non, j'ai pas encore fait ça. S'il y a des parents qui veulent me donner des trucs ou des conseils là-dessus, je les ai pas encore envoyés. Il y a des classes vertes avec l'école, mais donc là, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas. Non, ils ont pas fait ça encore, mais j'ai un peu hâte que je les envoie pendant 2 semaines dans un camp où ils font du canot pendant l'été, là.
Ouais. Ou chez les grands-parents, mais ça, c'est ton autre question, hein. Tes grands-parents, les grands-parents sont vaccinés chez vous?
Oui, c'est ça, les 4 grands-parents sont vaccinés, donc sinon, ça va faire une autre option. Je vois souvent quand je vais dans les parcs, il y a de plus en plus de grands-parents qui retrouvent leurs petits-enfants. C'est assez cute à voir parce que c'est ça, c'est surtout les papy-mamies qui sont dans les parcs pendant la journée maintenant avec les petits. Donc, j'imagine que les gens vont pouvoir peut-être graduellement réavoir recours à cette option-là. Mais ça a quand même ses limites aussi, là. Tu sais, je les enverrai pas 2 semaines non-stop chez les grands-parents, là. Je veux dire, à un moment donné, non, ils ont survécu à la pandémie. On va pas les acheter avec nos petits, tu sais.
Ouais. tu te souviens de tes étés à toi quand t'étais jeune, t'es une jeune maman, ça fait pas si longtemps quand même. Tu te souviens de ces étés? L'été, ça servait à quoi? Moi, il me semble qu'à l'époque, on niaisait beaucoup, on passait notre temps à vélo, dans le parc, à la piscine.
Mais tu sais, on avait, je sais pas toi, mais nous, ma mère, quand on était petit, elle travaillait pas, là, tu sais, elle a recommencé à travailler plus tard, mais donc on avait vraiment, on avait 2 mois de vacances. Ouais. Généralement, on faisait des voyages, on partait, mon père prenait ses vacances à ce moment-là. Puis on partait en voyage. Moi, mon père est français, fait que souvent, on allait voir la famille en France l'été, tu sais, puis c'est ça qu'on faisait, là. Remarque, c'est aussi l'enfance de beaucoup d'enfants du plateau que je salue, qui vont aussi en France tout l'été, des fois seuls, d'ailleurs. Les parents les mettent dans un avion, puis ils partent chez les grands-parents en France.
C'est vrai.
Mais c'était, tu sais, c'était une réalité différente. J'avoue que quand, moi, est arrivé le temps où est-ce que j'ai été confrontée à comme, ah oui, c'est vrai, mais là, il y a l'été qui s'en vient, les enfants ne seront pas à l'école. Parce que, tu sais, avec la garderie, ça se pose pas la question, voilà. Parce que les garderies sont ouvertes tout l'été. Mais une fois qu'ils sont en âge scolaire, tout d'un coup, ce casse-tête arrive. Et puis, des fois, ma génération n'a pas connu ce casse-tête-là quand il était petit parce que souvent, il y avait une maman à la maison. Puis maintenant,
et
c'est plus le cas.
Non, c'est ça. Puis effectivement, puis il y en a qui travaillent. On a beau parler de télétravail, il y a quand même des gens qui sont retournés au travail. Il y a des gens qui ne l'ont jamais écouté, quitté. Mais, c'est tous les essentiels. Ceux qui travaillent dans le secteur de la santé vont travailler cet été, ont des enfants. Et ça doit être un méchant casse-tête pour ces familles-là. Là.
Je te dirais que c'est pire si tu es en télétravail parce que tu peux pas être en télétravail. Tu vois, moi, j'en ai un qui est en isolement préventif en ce moment parce qu'il y a un cas dans sa classe. Donc, on est tous négatifs, mais lui doit rester 14 jours à la maison, même s'il est négatif parce que sa classe est fermée. Donc là, on est en télétravail, on doit alterner. Et c'est ça. Donc, je te dirais que si les gens sont en télétravail depuis un an et qu'ils voient l'été arriver, c'est comme si, dans le fond, tu n'as pas de vacances. Tu sais, ça fait juste continuer non-stop tout le temps si tu n'as pas accès à un camp. Je sais pas trop ce qu'on va faire.
Là. Ouais, ben je lance le défi de répondre à cette question à tous les parents qui nous écoutent. Fait. Oui, si vous voulez aider Léa Strelitzky à placer sa dernière, sa 6 ans, elle a une 6 ans à placer. On rit bien, mais c'est vrai que des fois tu dis oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec les petits parce que qu'est-ce que tu veux quand tu es des travailleurs, c'est ça la question. Alors dans la grande région de Montréal, vous nous appelez au 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Pendant ce temps-là, on va se tourner vers Claudine Potvin. Léa, je voulais peut-être te proposer, évidemment, les tiens sont encore jeunes, mais tes garçons 9 et 11 ans, ça doit être bon à l'école, toi, tes enfants?
C'est encore drôle. Ouais. Pas toujours, là. Ça dépend des matières, comme tout le monde.
Le du rattrapage l'été, es-tu pour ça, toi?
Ben, je trouve ça difficile quand même à imposer ça aux enfants, mais sauf que si c'est nécessaire. Mon mari dirait probablement oui. Moi, je suis la maman qui est un petit peu plus slack avec l'école, peut-être. Ouais. Mais
c'est
non,
bien dur, je trouve, de leur demander d'être à l'école l'été. Je t'avoue que j'ai un petit penchant pour l'été. C'est fait pour jouer. On va voir ce que Claudine Potvin en pense. Elle est professeure orthopédagogue au primaire. Elle est directrice propriétaire de centre pédagogique en accompagnement scolaire. Bonjour, Claudine.
Bonjour, Isabelle.
Bon, l'été, c'est-tu encore fait pour jouer ou c'est fait pour se rattraper de tout ce qu'on n'a pas pu faire à cause de la pandémie?
Ah, ben c'est sûr que prioritairement, c'est pour jouer, ça c'est sûr et certain. Par contre, il faut comprendre que, surtout là avec la pandémie, moi je l'ai dit déjà depuis presque un an, on en aura pour certains élèves, on en aura pour 3 à 4 ans à s'en remettre pour les élèves qui étaient déjà en grande difficulté avant la pandémie. Déjà, tous les élèves du Québec, qu'ils soient performants ou pas, auront quand même un rattrapage à faire. Ça c'est sûr et certain. Donc, cet été, plus que jamais, on aura possiblement beaucoup de rattrapage à faire avec quand même une bonne quantité d'élèves. Ça va être de mise. Par contre, il y a la façon dont on va le faire. Alors moi, je ne suis pas pour le fait de retourner à l'école en classe avec des masques ou même en virtuel avec vraiment une scolarité qui va être pareille, qui va être identique à ce que le jeune, que ce soit l'adolescent ou l'enfant, connaît à l'heure où on se parle. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai des camps éducatifs aussi. J'ai un camp de jour éducatif, le camp de jour Je sais tout. Alors, ça pourrait être une option pour Léa qui est en ligne avec nous. Moi, on est dans plusieurs villes au Québec, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai le camp de jour éducatif Je sais tout, où les enfants, les jeunes du primaire, on prend même du préscolaire de 4 ans, où parce qu'on les met en simulation, on les prépare à la rentrée scolaire. Donc ça les aide beaucoup au niveau d'organisation, au niveau de la routine, des habiletés sociales. Donc, on travaille déjà pour préparer le jeune à la rentrée scolaire. Donc ça, c'est très bon. Mais nous, le camp, oui, on peut faire de la révision, mais à travers que des activités. Donc nous, on va à la piscine 3 fois par semaine. Les enfants sont tout le temps dehors. On va faire des olympiades. On va travailler des mathématiques. On va faire une chasse au trésor des mots. Donc on va jouer, mais pas juste pour jouer. Il va y avoir des apprentissages. Donc dans un contexte comme ça, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai fondé ça il y a 15 ans, parce que je savais qu'il y avait des élèves pour lesquels c'était très important de continuer de baigner dans leurs apprentissages. Parce que 8 à 9 semaines d'arrêt, c'est pas toujours l'idéal pour un bon nombre d'élèves, parce que bon, puis ça c'est bien, parce que les enfants, contrairement aux adultes, durant les vacances, décrochent totalement. Alors ça fait en sorte, ça c'est bien, nous on pense toujours à ce qu'on va faire en revenant de vacances, ça, puis on pense à nos affaires, mais les enfants décrochent, mais par contre, au niveau des apprentissages, souvent ils vont revenir à l'automne, et c'est pour ça qu'on va souvent faire de la révision. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont avoir oubliées. Alors, de les faire rebaigner dans leurs apprentissages à travers un camp, à travers parfois 1 à 2 heures durant l'été de rattrapage, de suivi en orthopédagogie, où on va démêler des petits nœuds qui se sont mis durant l'année scolaire et que là, il n'y a pas d'autres apprentissages qui entrent en même temps, qui arrivent en même temps, ça peut être bénéfique et on le voit. Mais ça prend quand même une pause. Moi, ça prend au moins 2-3 semaines de pause, puis vraiment, on fait rien, on pense même pas à l'école. Mais si on parle des camps d'été là, qui ont été annoncés,
Moi,
je me pose la question, je suis pas contre, mais je pose la question, qui va les faire? C'est certainement pas les enseignants qui vont tourner dans les écoles.
C'est ça.
Ça, c'est une chose. Alors, et les élèves qui vont être ciblés, ça va être les élèves en difficulté. Donc, qui dit élèves en difficulté, ça prend des spécialistes, ça prend des gens qui connaissent la matière et qui ont la pédagogie nécessaire pour être capable de faire le rattrapage scolaire, le tutorat. Et donc, ça va être qui? Est-ce que ça va être des étudiants en enseignement, etc.? Ça va être quand? Ça va être juste le mois de juillet, comme ils font souvent, les 4 semaines de juillet, de 9h à 12h, 3h en classe. Donc, si c'est pour être comme ça, je suis pas très fervente à l'idée. Si on innove, si on trouve des nouvelles façons, c'est comme je l'ai fait avec mon camp éducatif, là, je suis entièrement d'accord, mais avec des gens compétents aussi. Parce qu'envoyer le jeune à l'école pour faire du rattrapage, si on n'a pas des gens qui vont être là pour être capables de faire de la rééducation pour ceux qui ont des difficultés, ça sert à rien. Le parent est mieux de rester en camping avec son jeune, de garder les effets scolaires qu'il avait avec lui cette année, et à ce moment-là, de faire de la révision sans faire de la pression. On fait de la lecture ensemble. La lecture, c'est la base de tout. Donc, déjà là, de faire lire vos enfants tout l'été, vous allez déjà voir une différence à l'automne.
Ouais. Est-ce que ça, alors, ouais. ça te parle, ça, Léa Streliski, propositions de Claudine Potvin?
Moi, sincèrement, je voudrais qu'on insère ça même dans l'école. Je trouve que Claudine a des très bonnes suggestions. Cette espèce de dualité de l'enfant qui est capable d'apprendre en jouant. Là, les enfants sont très bons à faire ça en bougeant. Puis en plus, l'autre chose que j'entends, c'est ce besoin de pause. Une fois que l'école est finie, ils ont besoin d'un 2-3 semaines où est-ce qu'il n'y a pas de structure. T'sais, ils sont beaucoup plus libres dans leur horaire. Fait que moi, je pense que ça va vraiment dans le sens de la psychologie de l'enfance. Puis moi, je voudrais qu'on réforme l'école même à partir de ça. Donc,
vous avez raison. Je pense toutes les deux, vous avez raison. J'ai noté jouer intelligemment. Exact. Puis,
c'est ça.
Apprendre aussi de façon ludique. Je pense qu'aujourd'hui, tous les modèles d'apprentissage doivent être changés. Là. Le vieux modèle qu'on a peut-être connu, nous, là.
Oui, puis effectivement. Non, c'est ça. Puis moi, souvent, c'est ce que j'aime les professionnels, étant donné qu'on fait souvent du 1-1. À ce moment-là, je dis, ben moi, profitez de l'intérêt que vous, vos propres intérêts, vos propres forces. Des fois, on a des professionnels qui ont, une affinité en musique, en danse, en sport, etc. Puis on a l'élève qui a aussi certaines affinités. On s'arrange justement que ça va ensemble et ils vont travailler les notions à travers ces affinités-là. Alors, oui, il y a beaucoup d'élèves, puis en plus, on parle juste des savoirs essentiels. Ce que les parents doivent retenir aussi, là, ce que les auditeurs doivent retenir, les parents, c'est qu'on faut se retrousser les manches. On en a pour 2-3 ans à s'en remettre. Il ne faut pas non plus se fier seulement qu'aux savoirs essentiels. Quand le ministre dit, les examens ministériels vont être allégés.
Ça veut dire quoi?
Parce qu'ils vont seulement évaluer les savoirs essentiels. Alors, les savoirs essentiels, c'est la base. Alors, on va pas extrapoler dans l'enseignement, dans les apprentissages. Mais à un moment donné, le jeune va arriver à la fin de son secondaire 5, va arriver à la fin de son primaire. Est-ce qu'on veut, en tant que parent, que notre jeune puisse avoir appris plus que les savoirs essentiels? Oui. Alors, il faut voir à ça.
C'est aussi que souvent, ces fameux savoirs essentiels, je ne sais pas qui a choisi qu'ils étaient essentiels, mais des fois, pour certains enfants, ils ne sont pas essentiels.
Quand on dit savoirs essentiels, on parle, mettons...
niveau de lecture.
La lecture, mettons, les homophones, c'est en grammaire, les choses importantes en grammaire, on a ciblé les choses importantes en mathématiques. Par contre, ce qui va amener un niveau plus élevé, qui se fait habituellement en milieu scolaire, ben là, c'est on dit aux enseignants, faites le minimum. C'est ça que ça veut dire. Chiquement, là, les savoirs essentiels, si on va enseigner le minimum de ce qu'on doit, le mieux qu'on peut, puis avec les élèves qu'on a aussi. Alors, ça fait en sorte que là-dedans, il y a des élèves qui ont soif d'apprendre, qui vont suivre un petit train qui va pas leur répondre du tout. On a des élèves en hyper difficulté que ça va aider. Mais écoutez, là, on s'en va tous vers le bas. Je dis pas que c'est pas une bonne façon d'aborder les choses, mais en tant que parent, à ce moment-là, si on veut le mieux pour notre enfant, il faut penser à un plus, que ce soit par un professionnel externe, que ce soit nous en tant que parents de dire, je vais rajouter une petite chose que je faisais pas avec mes enfants pour, optimiser la lecture, optimiser la compréhension, retravailler, prendre des jeux éducatifs pour travailler les calculs mentaux, etc. Donc, pour aller...
Les parents sont pas toujours les meilleurs enseignants, toutefois, ça c'est sûr. Bougez pas toutes les deux, on va revenir, faut aller à la pause. J'ai hâte d'entendre les parents là-dessus, parce que mes invités ont dit beaucoup de choses fort intéressantes. Puis moi, je vous lançais sur l'idée, bon, qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants cet été? Mais il y a toute la question, évidemment, de la pédagogie, de la perte du fameux glissement. Hein? Le ministre de l'Éducation dit, on voudrait éviter qu'il y ait cette espèce de fameuse glissade de l'été. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on perd des acquis en lecture, en maths, par exemple, en français, en grammaire, pendant les vacances. Il y en a toujours eu, mais là, avec la pandémie, c'est encore pire. Avez-vous l'impression là, que ça va faire quasiment des générations d'élèves, d'étudiants qui vont traîner ce retard-là et ces manques-là? Fait que c'est sûr que l'été, cet été, est-ce qu'on peut, comme parents, réagir par rapport à ça, essayer de faire travailler, entre guillemets, notre enfant là-dessus? J'aimerais voir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? 514-790-9850. Et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Êtes-vous d'accord, vous, quand même, une certaine époque? Puis j'aimerais ça que vous me parliez de votre époque, peut-être. Mais tu sais, c'était l'été, là. C'était pour jouer. J'ai l'impression qu'on a perdu ça un peu, des fois. Eh bien, voilà. C'est drôle, il y a Claude qui m'écrit. L'été pour jouer, dites-vous. Et moi, mon père était cultivateur, nous dit Claude. Il nous arrangeait ça, lui, les camps de vacances, à moi, puis à mes sœurs, puis à mes frères. Ça, c'est très, très vrai. C'est vrai, tous ceux qui travaillent dans le milieu agricole, là, je dis que tu sais ce que tu fais de ton été. Ça, j'ai connu ça aussi un peu, parce que mes parents, pour eux, c'était important qu'on sache comment ça poussait des patates, des tomates et des haricots. Alors, j'ai été corvée de ramassage de légumes pendant tout un été, ça forme le caractère. On a Ginette avec nous. Bonjour, Ginette.
Bonjour.
Vous, l'été, c'était comment?
Ben moi, à l'époque, premièrement, mes parents étaient immigrants de l'Italie. Donc, moi, j'ai 62 ans. Et puis, il n'y avait pas les moyens, justement, pour nous envoyer à des camps de jour. Donc, les villes, à l'époque de la ville de Montréal, dans le quartier Saint-Michel, on avait le parc octogonal à ce moment-là. Et puis, il y avait des moniteurs, monitrices qui s'occupaient de nous, sans frais. On s'amusait, on apprenait, on avait du plaisir.
Et les enfants d'aujourd'hui, d'après vous...
On n'a pas ça aujourd'hui, c'est ça.
Ouais. Merci, Ginette. Merci beaucoup.
De rien.
Merci bien. Effectivement, bon, Léa, Claudine, là-dessus, Léa Streliski, je rappelle, humoriste, maman de 3 enfants de 6, 9 et 11 ans. Claudine Potvin, qui est propriétaire, directrice de centre pédagogique en accompagnement scolaire. Beaucoup de gens m'écrivent pour justement me dire, ben moi, je voudrais bien, là, mais je saurais pas vraiment comment encadrer mon enfant dans... s'il y avait des devoirs, par exemple, ou s'il y avait une espèce d'obligation de faire un suivi pédagogique. Évidemment, c'est pas le cas, là. Il n'y a pas d'obligation pour personne.
Non, c'est ça exactement. Et le parent, quand on dit le parent, là, puis ça, c'est une très bonne question. Le parent ne doit jamais se substituer à l'enseignant, ne doit jamais se mettre dans la tête qu'il devra ou devrait être le deuxième enseignant de son enfant. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de lecture. Important de mettre l'enfant dans un milieu lecturisé. L'enfant voit ses parents lire, si on lui donne accès à des livres, déjà là, c'est une grosse base. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. On va faire une recette avec notre grande fille de 9-10 ans. Les demi-tasses et demi-ci, on peut travailler les fractions avec ça. Donc, c'est pas de devenir un enseignant, c'est juste d'essayer. Un petit première année, on a un menu, là, on va pas trop dans les restos, on va en zone rouge, mais on peut lire un menu qu'on veut commander, par exemple. Alors, ça en est de la lecture, ça. Un mode d'emploi, on est en train de monter un meuble, peu importe, il y a un mode d'emploi, on va faire lire, ça en est de la lecture. Alors, on n'a pas besoin d'être prof pour ça. Puis tout à l'heure, tu parlais de glissade. Et là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que oui, parfois, on a une glissade d'été, mais là, c'est une glissade de l'année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait un an qu'on glisse. Depuis l'année dernière, avec la troisième année qui a été escamotée, cette année, ça a été un peu un coup de grâce, surtout pour les élèves en difficulté, et c'est même devenu une problématique pour ceux qui réussissaient bien. Et encore pire, pour ceux, ça je le dis, ça va être important, tous les élèves qui terminaient, mettons, un cycle, une année impaire l'année dernière, donc 2, 4 ou 6, et qui cette année étaient dans une année impaire, première, troisième, cinquième, secondaire 1, secondaire 3, je vous dirais, il y a encore plus la loupe aiguisée, parce que ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Ce sont des années hyper importantes. Et une année, dans les années impaires, là, qui sont le début des cycles, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, c'est des années cruciales. Et encore plus la cinquième, qui est 40 du secondaire. Alors, les élèves qui ont fait une cinquième année cette année, malheureusement, ils n'ont pas tiré le meilleur billet de l'auto parce que c'était le pire moment ou avoir cette année de pandémie là pour ces années-là.
Là, tu parles du primaire, mais bon, on s'imagine, c'est sûr que c'est la base, hein.
Oui.
C'est super important, les acquis, de plus en plus. On le sait, les éducateurs disent qu'il faut même prendre ça en pré-maternelle. Maternelle, c'est là que ça commence. Ça devrait même, dès que c'est possible, dès que l'enfant est...
Oui.
Il faut l'éveiller. Mais imagine la secondaire 4, secondaire 5 qui s'en vont au cégep. Hein.
Ah oui, oui. Puis il y en a, faut se le dire, il y en a pour qui ça va être catastrophique. Moi, je veux pas être prophète de malheur, naturellement, mais ça fait, je le disais même avant le ministre, ça, dans mes lives Facebook et tout ça, j'annonçais des fois 3 à 4 semaines d'avance ce qu'il annonçait, parce que je l'ai vu venir depuis longtemps, déjà avec la troisième étape escamotée, ceux en cinquième année cette année qui vont se retrouver au secondaire dans un an, ou ceux qui étaient en sixième année l'année dernière, ou peu importe, ça a été très difficile le secondaire 1 cette année. Alors, naturellement, les élèves performants, en temps normal, vont pédaler un petit peu plus fort. Ça, ils vont s'en remettre avec un petit peu d'essoufflement. Les élèves avec un peu de difficulté, ça va être plus ardu. Ceux qui sont en grande difficulté, qui avaient déjà des retards académiques, écoutez, on finit toujours par y arriver, mais il y en a pour qui il va y avoir certainement des objectifs pédagogiques qu'il va falloir qu'on les revoie, parce qu'ils pourront pas arriver à ces objectifs-là.
Écoute, j'ai des parents là dont les jeunes sont au cégep aussi, là, c'est des plus grands, mais oui, quand même, on parle beaucoup de primaire, secondaire, mais on a tendance à les oublier, ceux qui sont au cégep ou même plus largement à l'université, là, sont des post-ados et des jeunes adultes, mais quand même, tu sais, c'est... Quand tu es au cégep, moi, j'ai ma fille qui est au cégep, dans deux de ses cours, il y a un examen, il compte pour 100%. T'imagines le stress et l'anxiété que ça cause?
Ça, c'est pas pédagogique, c'est absolument
pédagogique. Ben, c'est ça, pareil. Puis à l'université, je te raconte pas, c'est ça. Puis ça a été en Zoom, puis en Teams, puis ça devient, là... Moi, je trouve qu'ils sont faits forts parce que... Wow, c'est difficile d'apprendre dans des conditions comme ça. Il y a Marc qui me dit « Lecture. Avez-vous essayé de faire lire un ado, un gars? Avez-vous des trucs? »
Ben oui, on a plusieurs trucs. Naturellement, les ados restent les ados, mais aller chercher leur intérêt. Par exemple, si le jeune veut, là, je donne plein d'idées, mais si mettons le jeune vous demande quelque chose, ça peut être une mobilette, ça peut être un intérêt, ben écoute, ça peut être une condition, hein, ça peut être
ah oui, toi tu fais la carotte là, si tu veux un vélo, t'as intérêt à lire.
Ben non, pas intérêt à lire, non, mais ce qu'on peut lui faire lire, mettons que tu veux un panier de basket, parfait, mais c'est toi qui vas le monter, mon homme.
Lire sur le vélo, parfait,
tu veux une mobilette, parfait. C'est quoi les sécurités par rapport à ça? Qu'est-ce que ça prend pour avoir ton permis de conduire, etc., etc. Donc, informe-toi, amène-moi un petit dossier là-dessus bien monté, puis ta mère et moi, peu importe, on va discuter, puis on va voir, mais prépare ton dossier. Alors, déjà là, ils vont aller faire des recherches, ils vont vous monter un petit dossier. Donc,
ça, c'est bien, ça. Ça, c'est chouette. C'est très
fun. Il faut se dire qu'un ado... C'est pas à l'adolescence qu'on doit amener un jeune à commencer à lire. Naturellement, il est jamais trop tard. Mais c'est dès la tendre enfance. Donc, votre enfant devrait être dans votre ventre, devrait avoir des livres chez vous. Ouais. Alors, c'est à peu près ça. Doit vous le voir lire aussi. C'est important. Ou même si vous ne lisez pas, essayez de vous forcer à le faire. Il faut que l'enfant soit dans un milieu lecturisé. Il faut que les livres fassent partie de sa vie.
Voilà.
Alors, d'arriver à puis je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais nous autres, on lit beaucoup. Notre jeune ne veut pas. Ça se peut. À ce moment-là, ben, il faut trouver d'autres façons, essayer d'aller chercher d'autres intérêts. Sur Internet, ils en lisent beaucoup, des fois pas toujours les bonnes choses. Alors, ça aussi, c'est une autre chose d'utiliser Internet avec les ados pour aller lire sur des fois, j'aurais besoin d'aide, pourrais-tu aller lire telle affaire pendant que je fais telle chose?
Donc, c'est de l'incorporer, Claudine, ce que tu nous dis, c'est d'incorporer le plus possible dans le quotidien, sans pression. Fait que voilà.
Oui,
hey, merci beaucoup, Claudine Potvin. Merci bien. Léa Streliski, ça t'a donné quelques cues, j'imagine, Léa. Tu disais...
J'ai plein de notes.
Hein? Bon, voilà. Hey, merci, Léa. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci bien. Ben voilà, ben c'est sûr. En tout cas, on va suivre ça parce qu'il y a beaucoup de questions sur les camps pédagogiques. J'imagine que le ministre de l'Éducation aura l'occasion de s'exprimer là-dessus. On va s'arrêter ici. Ben, vous le savez, dimanche, c'est la fête des mamans. Et à cette occasion, je vais vous demander comment vous avez l'intention en temps de pandémie, deuxième fête des mamans en pandémie, comment vous allez souligner la fête de la vôtre. Moi, j'ai une chanson que j'adore. Là, Marc Lhervieux, mon invité, m'en voudra pas de faire jouer France Gall avant lui. Mais cette chanson-là, est que je l'aime.
Tous mes amis sont partis. Mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si
Maman-ci de France Gall. Je ne sais pas si ma mère m'écoute. Je l'espère parfois. Je l'embrasse. On revient tout de suite après, puis dites-moi comment vous voyez ça pour votre maman.
Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le